Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakane. Pour être plus précis, le 7e épisode de la 3e saison. Ça en fait quand même déjà. Et en tête à tête, on va dire, avec l'ami Greg. Salut Greg.
Salut Armano, comment vas-tu?
Je vais bien au moment où on enregistre cet épisode. Et puis, ça va un peu être la question qui va dicter tout notre épisode d'aujourd'hui. Le comment vas-tu? Comment te sens-tu? Comment ressens-tu ta journée ou ce que tu es en train de faire? Allez, on va s'arrêter là sur le suspense. Aujourd'hui, on a décidé de parler de RPE, qui est d'ailleurs une question que nous avait posée un auditeur en début d'année, en janvier 2021. C'est une question qui venait de Julian Angels. Comment comprendre comment est-ce que fonctionne le RPE? Alors déjà, Greg, pour commencer, toi qui es la caution scientifique du podcast de Nakane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le RPE et, en gros, qu'est-ce que veulent dire ces initiales?
Oui, alors volontiers, parce que le RPE, c'est quelque chose dont on a peu parlé dans le podcast jusqu'à maintenant. Pourtant, on a parlé de quantification, d'intensité, de charge, d'entraînement, etc. Et puis le RPE fait partie de toutes ces données qu'on peut enregistrer par rapport à son entraînement. RPE, ça veut dire Rating of Perceived Exertion, donc ça veut dire que, en gros, c'est le ressenti par rapport à l'exercice qu'on a fait. Et donc, on le comprend bien déjà rien qu'à la définition du terme. C'est pas une donnée qui va être mesurée par quelque chose de technique et qui sera scientifiquement toujours la même quand on mettra la même intensité. C'est quelque chose qui est plus proche de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a des fois des séances, tu vas t'entraîner, tu vas faire 10 fois 400 mètres, t'as l'impression que ça va tout seul, que tu vas très vite et que tout va bien, et il y a des fois, tu fais la même séance, pourtant, elle devrait se passer de la même manière, mais c'est pas le cas, t'es un peu fatigué, t'as le stress du boulot, et puis t'as les pieds qui collent sur la piste, et puis ça se passe pas tout à fait comme c'était prévu. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode.
Alors attends, parce que tu l'as dit, on a déjà beaucoup parlé de quantifier, de noter. Je me souviens d'un épisode avec Denis, alors je ne saurais plus le dire lequel, puisque Denis, notre grand consultant suprême, il est venu tellement souvent dans notre podcast que je ne sais même plus duquel on parle, mais on avait parlé avec Denis justement de noter à la fin d'un entraînement sur une échelle de 1 à 3, pour simplifier les choses, comment est-ce qu'on s'était senti? Est-ce que c'est ça, ce fameux RPE, ou est-ce que ça va être quelque chose d'un peu plus technique tout en étant quelque chose d'assez sensoriel, sensitif, ressenti?
Alors, il y a différentes choses. Donc, effectivement, le RPE, c'est quelque chose qu'on va pouvoir consigner entraînement après entraînement parce que c'est quelque chose d'intéressant d'analyser, peut-être sur le long terme, ou alors, par exemple, s'il y a une période de ton entraînement qui a bien marché et une autre qui a moins bien marché, c'est un paramètre qui va pouvoir être intéressant pour planifier tes entraînements futurs, savoir qu'est-ce qui était plus efficace ou pas. Donc, oui, moi je trouve très intéressant de consigner ça. Et puis l'objectif, c'est d'essayer de prendre l'habitude de le faire pour chacune des séances idéalement, ou en tout cas pour toutes les séances clés qu'on va faire dans la semaine. Les personnes qui suivent un plan d'entraînement défini ont en général quelques séances clés, hein, soit d'endurance, soit d'intensité dans la semaine, et puis d'autres séances un peu plus cool où on va faire un footing le matin, etc. Là, il n'y a pas forcément besoin de noter systématiquement son RPE, mais sur les séances clés, c'est assez intéressant. Et puis c'est un exercice qu'il faut pratiquer pour commencer à prendre un petit peu d'expérience avec ça, parce qu'au début, c'est une notion qui est un petit peu abstraite, de savoir juger par soi-même comment est-ce qu'on a ressenti l'effort. On va aborder tout ça dans cet épisode.
Bah, ça n'empêche que t'as pas encore tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce que c'est que ce fameux RPE? Enfin, voilà, je pense que ça va être l'objectif de cet épisode. Par quoi on commence, justement, pour pouvoir en parler, pour pouvoir aborder le sujet du ressenti? On aborde quel aspect en premier?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects fondamentaux qu'il faut aborder tout de suite pour clairement mettre les définitions en place. La première chose, c'est que on parle de RPE, donc de perception de l'effort. En général, c'est le terme qu'on utilise en français. Cette perception de l'effort, elle va se noter selon différents systèmes. Initialement, on avait le système de l'échelle de Borg qui étrangement allait de 6 à 20 et qui est un petit peu difficile de savoir pourquoi on commence à 6 à 20. Donc maintenant, on a une échelle simplifiée sur la plupart des outils qu'on utilise dans l'entraînement sportif. une échelle simplifiée qui va de 1 à 10 pour quantifier la perception de l'effort. Pour donner un exemple très très simple, hein, je vais faire un footing super léger ou même je fais de l'alternance marche-course. Je suis dans des intensités qui sont très faibles, 0, 1, 2. Et puis, je vais courir à fond un 400 mètres. Je serai dans des intensités qui seront proches de 9 ou 10 parce que je serai vraiment à bloc. Je peux pas faire un effort qui est plus intensif. Donc ça, c'est vraiment la perception que je vais ressentir. Mais des fois, il y a des variations. Par exemple, prenons un exemple. Hermano, tu vas faire un 10 x 400 mètres sur piste avec 30 secondes de récupération de chacun de tes 400 mètres. Et puis, tu vas les courir tous exactement avec la même intensité. Donc là, j'entends une même intensité technique. On peut parler de watts, on peut parler d'allure. Tu vas tous les faire exactement de la même manière. Tu auras quand même une perception d'effort qui sera différente, très probablement, entre le premier de ta série et le dernier, où tu auras accumulé de la fatigue. Tu vas le courir à la même allure ou à la même puissance, mais par contre, tu auras l'impression de fournir un effort plus important. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de noter la perception d'effort dans les différentes séances qu'on va faire, parce que voilà, la perception va changer au cours de la réalisation de l'entraînement.
Donc en gros, ce que tu veux dire là, avec l'exemple que tu viens de donner, c'est que, à ton sens, pour que notre quantification du RPE soit efficace, il faudrait presque noter chaque bloc de l'entraînement pour pouvoir après, je sais pas, en ressortir une moyenne. Alors si on prend une séance effectivement de fractionné ou d'intervalle, en gros on va avoir l'échauffement, voilà, tout est censé bien se passer, à moins qu'on y aille déjà en traînant les pieds, mais admettons qu'on part bien. On va avoir le cooldown à la fin ou la récupération active qui va être là aussi bien notée, puisque, enfin bien notée, où on aura une perception de l'effort qui est très faible, puisqu'on n'est pas censé mettre d'effort dans ces deux blocs-là. Et puis au milieu, on va avoir notre bloc d'intervalle, où, comme tu le dis, on va avoir des perceptions de l'effort à fournir qui va évoluer. Et donc peut-être que les quatre premiers 400, on aura une perception d'effort qui sera à 6 ou 7 sur 10, parce que on n'aura pas eu l'impression de tout mettre à fond là-dedans. Par contre, sur les derniers, on sera plutôt à 9 ou 10, parce que là, avec la fatigue et avec les répétitions, on aura l'impression d'avoir tout donné. Donc, on va avoir plutôt un schéma comme ça sur le RPE, où tu veux dire que finalement, on va avoir une séance et il va falloir qu'on note de manière globale, qu'on essaie de trouver une moyenne ou une façon de quantifier cet entraînement au regard du RPE.
Bah, effectivement, on pourrait accumuler énormément de données en faisant chacune des intervalles de la session avec un score RPE qui est propre. Maintenant, quand on s'entraîne tous les jours, on sait que c'est concrètement quelque chose qui est difficile à faire, surtout que les plateformes, on va en parler après, ne permettent pas d'enregistrer plusieurs scores de RPE pour la même activité. Donc maintenant, je vais parler aussi un petit peu de mon expérience et de ma pratique. C'est pas forcément quelque chose qui est 100% juste, hein. C'est la manière dont j'utilise ces outils. Moi, ce que je fais, c'est que je note un score de RPE pour chacune de mes séances que je vais réaliser. Mais là, il y aura qu'une seule indication. Donc, si je vais faire un 10 x 400 mètres, je vais m'arrêter à la fin de ma séance. Puis pendant mon cooldown, je vais réfléchir en me disant, qu'est-ce que j'ai ressenti comme effort. Puis au moment où j'arrête mon enregistrement, je note le RPE global de ma session. Par contre, si je vais faire un test d'effort, on a parlé déjà de tests de VO2 max sur tapis, par exemple pour la course à pied ou sur le vélo pour le cyclisme, mais à ce moment-là, souvent dans le test, dans le protocole de test, les personnes qui font réaliser ce test d'effort dans le labo, eh bien, vont demander un RPE régulièrement au cours de l'effort. Et là, c'est intéressant de voir la progression du RPE par rapport à la progression de l'intensité, de la fréquence cardiaque, de l'allure ou autres données plus mesurables, et puis de voir un petit peu comment on se ressent, parce que ça permet aussi d'avoir des informations sur l'entraînement. Donc, quand je vais faire un test, par exemple, on a parlé en course à pied de faire des tests de FTP de course à pied ou un test de FTP de cyclisme, eh bien, j'essaye de mémoriser un petit peu mon RPE au fur et à mesure du déroulement du test, pour voir si il est linéaire avec l'effort réel que je suis en train de produire.
Après, je voulais effectivement rebondir sur une chose que tu as dite, c'est que on a aussi cette limitation liée aux plateformes que l'on va utiliser. Alors, celui qui utilise le bon vieux fichier Excel ou le bon vieux cahier dans lequel il recense, il journalise ses entraînements, il aura peut-être plus de facilité à détailler les RPE de ses différentes séances. Par contre, pour la personne qui utilise une ou des plateformes, ça va être un peu plus compliqué puisque elle n'accepte qu'un seul RPE. Toi qui es encore une fois la caution technique du podcast, je je ne peux pas croire que tu n'aies pas fait le tour des différentes plateformes qui existent pour voir un petit peu comment ça fonctionnait.
Alors oui, oui, j'ai d'ailleurs préparé pour cet épisode un petit compte-rendu des différentes plateformes qui sont les plus utilisées pour analyser son entraînement. Mais juste avant ça, on va peut-être parler d'un autre aspect qui est souvent mis en parallèle à la perception d'effort, c'est la sensation. On a souvent à noter la sensation...
Attends, t'es en train de me dire que sémantiquement, t'as une différence entre la sensation et la perception. Ah, je suis perdu là. C'est toi le Suisse, c'est moi le Français. Je suis censé mieux maîtriser la langue française quand même.
Mais pas du tout. Non, en dehors de ça, oui, il y a vraiment une différence. Prenons un exemple, Hermano. Tu te rends au stade pour faire ton entraînement de 10 fois 400 mètres en intensité. Et puis, sur le chemin du stade, tu dis, ah ouais, aujourd'hui, il fait beau, la température est idéale. J'ai vraiment la monstre motivation pour aller faire une belle séance de 10 fois 400 mètres. Je vais vraiment envoyer du lourd. Et puis, j'ai l'impression que je vais pouvoir courir très fort. Tu fais ton échauffement. T'as tout qui se passe bien. Pendant ton échauffement, tout est OK. Et puis, au moment où tu démarres ton premier 400 mètres, eh ben là, t'as l'impression que t'as les pieds qui collent. Et puis, t'as l'impression qu'en fait, t'arrives pas à pousser autant que t'aimerais. Pourtant, la motivation, elle est à fond. Mais par contre, t'as vraiment l'impression de fournir un effort très important. Et puis, avec des résultats qui sont pas forcément à la hauteur de tes espérances. Donc là, il y a deux choses. Il y a la perception de l'effort qui est très élevée par rapport à ce que tu es en train de réaliser. Mais par contre, tu as une motivation, etc., qui est très forte à l'entraînement. Donc moi, j'essaye de dissocier ça de la manière qui m'est proposée par les plateformes. La plupart du temps, on me demande une sensation. Et puis ça dépend, des fois c'est des petits smileys où tu mets le personnage tout content ou le personnage tout triste, et ça s'étale entre 3 et 5 degrés de différence. Là par exemple, hein, je suis en train de regarder la plateforme Nolio pour le ressenti. Au niveau de la sensation, j'ai super, bien, moyen, mal ou horrible. Et donc voilà, moi ce que j'essaye de noter avec ces petits smileys, c'est vraiment la motivation que j'avais à faire ma séance et à quel point j'étais mentalement impliqué et puis motivé pour aller faire ça. Et puis à côté, la perception de l'effort, ben, plus ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire que si je vais faire mon 400 mètres à bloc et puis que je le répète 10 fois, ben j'aurai une perception de l'effort qui sera vraisemblablement autour de 8-9 parce que j'aurai fourni un effort qui sera presque maximal.
Encore une fois, là, on va avoir la possibilité de noter que avec une échelle pour toute la séance, enfin deux échelles si on considère une fois la sensation à l'effort et deux la perception de l'effort fourni. Et pourtant, sur une séance comme tu l'as indiqué là, sur un 400 mètres, enfin sur un 10 x 400 où l'échauffement tout se passe bien, et puis au moment où on commence à envoyer des watts, et ben finalement ça avance plus. On devrait avoir deux sensations différentes relativement à l'entraînement. Donc il va falloir garder la sensation qui ressort le plus ou peut-être qui était la plus dérangeante.
Bah, finalement, moi c'est relativement simple. La sensation, c'est-à-dire le petit smiley, je vais mettre l'état de motivation que j'avais au début de ma séance et puis la perception de l'effort. Je vais mettre vraiment ce que j'ai ressenti comme effort dans ma séance lorsque je fais le bilan à la fin. Donc finalement, ça recoupe un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que je vais mettre deux métriques et puis deux qui vont prendre une fois un petit peu la sensation au début de la séance et l'autre à la fin. Et donc on se recoupe parce que bon, concrètement, on le sait très bien, une fois qu'on rentre dans un entraînement, on va pas forcément passer 15 minutes à remplir des notes. Quand Denis nous disait tout ce que vous mangez ou buvez pendant l'entraînement, vous allez le noter. Là, il y a le RPE, il y a le ressenti, il y a encore d'autres éléments qu'on va vouloir consigner. Donc, est-ce que finalement, on va s'astreindre à mettre 4 notations de ressenti puis 5 de sensations pour chacune de ces séances? Moi, je sais très bien comment ça va se finir si tout d'un coup, je décide de faire ça. Hein. Ça va être OK pour 3 séances et puis les suivantes, il n'y aura plus rien. Donc, donc le mieux est l'ennemi du bien et je pense que vraiment d'avoir une notation pour ça, c'est quand même déjà, si on arrive déjà à s'astreindre à faire ça pour chacune des séances clés de la semaine, c'est bien parce que ça permet quand même de revenir à une analyse après si on se détache un petit peu de la séance, mais qu'on regarde une période d'entraînement, si je vois que sur une période de 3-4 semaines d'entraînement, la plupart de mes sensations sont avec le petit smiley qui est moyen, voire triste, je me dis, là, il y a peut-être quand même une baisse de motivation dans mon entraînement, dans mon plan d'entraînement. Alors, est-ce que vraiment mon objectif me tient encore à cœur? Est-ce que la planification de mon entraînement est encore bonne? Et puis, la perception de l'effort, elle va me demander, tiens, est-ce que l'intensité que je m'inflige dans mon plan d'entraînement, elle est vraiment en adéquation avec la période de l'entraînement que je suis en train de suivre? Et puis, est-ce que mes objectifs pour cette période-là sont pas un petit peu élevés ou un petit peu bas par rapport à ce que j'aimerais accomplir pendant cette période? Donc, ça va aussi me permettre d'analyser deux aspects différents de mon entraînement de manière plus globale.
Ouais, et puis je pense aussi que là, pour recouper avec les différents conseils que Denis peut nous donner, et notamment de courir lentement pour courir plus vite et plus longtemps, cette fameuse perception de l'effort fourni. Moi, j'aime bien rajouter le fourni à la fin, parce que perception de l'effort, je te dis, je trouve que ça se mélange vraiment beaucoup avec la sensation. Alors que la perception de l'effort fourni, là, on est vraiment sur ce qu'on a dans les jambes et ce qu'on ressent dans les jambes. Ça va peut-être aussi nous permettre de confirmer que sur une période donnée, on respecte bien ce pseudo-ratio de 80-20, 80% en endurance, donc 80% où on n'appuie pas trop sur les jambes, et 20% où là, on va pouvoir se lâcher, taper dedans, se mettre une bonne grosse séance, ce qui va peut-être nous permettre aussi de progresser, je veux dire. Si on voit que le rapport commence à s'inverser, où on a des efforts ressentis qui sont plutôt de l'ordre de 25, 30, 40% au regard de la totalité de l'entraînement sur une période de une semaine ou un mois, ça dépend quelle est la période qu'on observe. Peut-être, ça va peut-être aussi nous permettre de nous poser des questions.
Alors oui, absolument. Et puis en plus, ça va t'amener aussi à pouvoir comparer ce que tu ressens par rapport à ce que tu fournis vraiment comme effort. Parce que tu vas pouvoir mettre en relation ton RPE que tu as noté pour tes différentes séances et puis la réelle intensité en zone de fréquence cardiaque, en zone de puissance, en zone d'allure par exemple, si tu as l'habitude de travailler avec ces données-là. Et puis de voir une évolution par rapport à ça. Peut-être que tu vas avoir une allure qui va s'accélérer au fur à mesure de ton entraînement, en tout cas c'est le but, hein, vu que tu essaies d'aller plus vite, mais en même temps la perception de l'effort va rester stable, donc ça veut dire que tu progresses. Par contre, tu peux commencer à t'inquiéter de savoir est-ce qu'il y a un surentraînement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma planification d'entraînement si ta perception d'effort augmente mais que la performance réelle, la vitesse, la puissance ou autre, stagne ou recule. Et puis ça, c'est un indicateur aussi sur la qualité de ton plan d'entraînement et puis de ta propre progression et de ta propre assimilation des séances passées.
Bon, sans oublier aussi que on a souvent une progression qui n'est pas linéaire. On progresse, on a un plateau, on régresse un petit peu pour reprogresser après. Donc, il ne faut pas non plus avoir les yeux totalement rivés sur les datas tout le temps et peut-être s'entraîner aussi au ressenti pour faire la différence entre la sensation et la perception, n'est-ce pas?
Ouais. Mais là, ça commence à devenir des notions qui sont très, très fines. Mais, mais c'est quand même important, je pense, de le faire. On parle en général de phases de 4 semaines. Quand on regarde un plan d'entraînement, on peut regarder ça à l'échelle du mois, voire de 6 semaines. Ou alors, vu que en général, j'essaye de réaliser mes tests de référence, à savoir mes tests FTP, que ce soit en course à pied ou à vélo, ça peut être aussi les tests VMA ou autres. Hein. Quand on essaye de vraiment refaire un petit pointage sur l'état de forme, on a en général un test de référence. Eh bien, j'essaye de mettre 6 semaines entre chacun de ces tests et puis à les répartir sur différentes semaines. Ça veut dire que je vais faire une semaine mon test de natation, une semaine mon test de course à pied, puis la semaine suivante mon test de vélo, puis ensuite il va se passer 2 ou 3 semaines où je vais pas me tester et puis refaire une suite de tests. Et bien, lorsque je refais une série de tests, je peux reprendre un petit peu mon RPE par rapport à mes entraînements passés et puis refaire une analyse de données par rapport à ça pour être sûr que je suis dans le tir au niveau de mes entraînements, qu'il n'y a pas une augmentation massive de mon RPE par rapport à mes intensités ou alors aussi mes sensations. Hein. Je peux regarder mes petits smileys des dernières semaines et puis s'il y a plus de tristes que d'heureux, je peux me remettre en question est-ce que je prends toujours du plaisir à m'entraîner? Est-ce que j'ai toujours les bons objectifs?
Alors, tu parles de smiley, tu parles de regarder ces RPE. On l'a dit, hein, la possibilité de quantifier tout ça, de suivre tout ça, et ben c'est le bon vieux fichier Excel ou c'est le bon vieux cahier. Mais ça va être aussi d'utiliser une ou des plateformes parce qu'à l'heure actuelle, on a la possibilité d'en utiliser plusieurs. Toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as déjà fait un tour des plateformes. Est-ce qu'on peut passer ça en revue et puis voir aussi comment est-ce que ça va nous permettre, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette analyse et peut-être même, question subsidiaire, est-ce qu'il y a des plateformes qui t'alertent quand elles détectent que tu as mis 12 smileys vraiment pas bien, tristes d'affilée, ou quand sur une période donnée, effectivement, tu vas avoir une inversion des courbes. Est-ce que ça existe?
Alors, si on prend déjà la première partie de la question, c'est-à-dire les différentes plateformes, la plupart intègrent maintenant cette notion de RPE, ou en tout cas de donner un ressenti autre que vraiment ce qui a été mesuré pendant la séance et de donner ces informations-là. Les utilisateurs de montres Suunto, par exemple, sont assez conscients de ça, parce que par défaut, une Suunto, une fois qu'on termine l'entraînement, même sur la montre, on enregistre son activité, et là, il y a ces petits smileys qui apparaissent et on peut les faire défiler pour choisir celui qui correspond le mieux à la sensation sur sa séance. La plupart des autres fonctionnent pas directement sur la montre.
Là, on est bien sur la sensation. Sur Suunto, on est bien sur la sensation, c'est-à-dire pas la perception de l'effort fourni.
Alors moi, je l'utilise en tout cas de cette manière-là, ouais. En tout cas, sur la Suunto, c'est-à-dire les petits smileys qui apparaissent après la séance, je vais mettre ma sensation. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, je mets mon état de motivation à faire ma séance et puis le plaisir que j'ai eu à la faire. Et puis, la perception d'effort, que ce soit une séance d'intensité ou un petit jogging, n'entre pas en ligne de compte dans cette perception-là. Sur les autres plateformes, donc moi je suis un grand utilisateur de TrainingPeaks, les auditeurs du podcast le savent. TrainingPeaks, une fois qu'on a enregistré une séance ou synchronisé une séance avec TrainingPeaks, la première fois qu'on l'ouvre pour aller voir le détail, automatiquement il y a cette petite pop-up qui apparaît et on peut rentrer ces deux informations, donc le ressenti et la perception de l'effort. Je m'astreins vraiment à le faire à chaque fois que je vais consulter le détail d'une séance sur TrainingPeaks après l'avoir effectuée. Comme ça, ça me permet d'avoir un suivi de quasiment toutes mes séances à ce niveau-là et puis ensuite à prendre les notes s'il y en a à ajouter sur la séance. Les utilisateurs de la plateforme Nolio, j'en parlais au tout début parce que c'est là que j'avais sous les yeux les petits smileys et puis les échelles. Là aussi, on va dans le détail d'une séance et puis on a une section ressenti. On peut mettre exactement les mêmes informations que dans TrainingPeaks. Donc, on a les 5 petits smileys et puis la perception de l'effort sur une échelle de 10.
Je sais pas si t'as noté, mais sur Nolio, on a aussi cette petite fonctionnalité que moi, j'affectionne tout particulièrement. C'est que dès que tu connectes Nolio avec ton compte Facebook et en l'occurrence ton compte Messenger, dès que tu as fini de synchroniser une activité, alors quelle que soit la marque, mais qui soit relativement récente et qui se synchronise automatiquement avec ton téléphone dès que tu as fini la séance, tu reçois une notification Messenger de la part du petit bot de Nolio qui te propose justement de débriefer là où les séances qui sont en cours, et dans le débrief de la séance, tu as la sensation, donc c'est smiley, c'était super, c'était bien, c'était moyen, c'était horrible, c'était médiocre. Et puis tu as la perception de l'effort fourni avec une échelle qui va de 1 à 10 et avec des pastilles de couleurs. Donc ça aussi, c'est une petite fonctionnalité assez sympa que je trouve dans Nolio, qui te permet de pas forcément rentrer dans la séance, mais qui t'envoie une petite notification pour pouvoir débriefer de ta séance.
Ouais, tout à fait, j'abonde là-dedans. Alors moi, j'ai pas connecté le Messenger à ma plateforme Nolio, mais effectivement, quand je me balade sur la petite échelle de perception de l'effort, la couleur change en fonction de la pastille que je sélectionne, et ça donne une bonne indication, un retour visuel sur l'effort ressenti. Et puis c'est pareil dans TrainingPeaks, on a le petit code couleur qui va bien aussi par rapport à ces icônes. Et l'avantage de ces deux plateformes, c'est que on a vraiment, dès qu'on clique sur le détail d'une séance, on a accès à ça. Par exemple, chez Garmin, dans Garmin Connect, lorsqu'on a une séance qui est synchronisée, il faut aller éditer la séance, que ce soit dans l'app mobile ou sur la plateforme web en ligne, pour trouver ce détail un petit peu en dessous de la section où il y a vraiment les données brutes. Et c'est un petit peu moins évident de voir ces données. C'est aussi un tout petit peu moins évident ensuite d'avoir une vue synthétique de plusieurs jours ou de plusieurs semaines d'entraînement dans Garmin Connect par rapport à ces données qui sont très visibles dans les plateformes qu'on a citées avant. Polar Flow permet aussi de donner un retour par rapport à ça dans la plateforme. Et puis, par contre, je n'ai pas trouvé trace dans l'application mobile de Coros.
L'application mobile est plus fournie que l'application web qui est relativement succincte.
Ouais, alors effectivement, Koro, ça propose que une application mobile. Sur le web, il y a quasiment rien. Et puis c'est vrai que c'est une plateforme qui est encore un peu jeune, donc on peut imaginer qu'à l'avenir ça évolue. Les entraînements de Koros peuvent aussi facilement être exportés automatiquement vers des plateformes comme TrainingPeaks ou Nolio, donc on en bénéficiera si on utilise à côté une de ces deux plateformes.
Tu disais que pour les utilisateurs de Suunto, directement dans la montre après une séance, tu avais cette petite pop-up avec des smileys pour donner ton ressenti sur la séance et pas ta perception de l'effort fourni. Est-ce que cette information, dès lors que tu la renseignes, elle va être synchronisée avec les différentes plateformes que tu as citées, à savoir TrainingPeaks et Nolio, ou est-ce que ça va être une donnée complémentaire qui va passer outre la synchronisation?
Alors non, elle sera disponible dans l'application Suunto une fois que tu auras enregistré ta session. Par contre, c'est vrai qu'elle ne voyage pas sur les autres plateformes ensuite. C'est-à-dire que TrainingPeaks, par exemple, ne va pas la récupérer. Puis Nolio, a priori non plus, mais j'ai pas connecté récemment d'activité avec une montre Suunto sur Nolio, donc je peux pas dire si c'est quelque chose qui aurait été rajouté récemment, mais à ma connaissance c'est pas le cas. Et puis chez Suunto on a ce suivi au niveau de la sensation, hein. Donc comme je le disais, ma motivation au début de la séance. Par contre, on n'a pas de notion de RPE à proprement parler, ni sur la montre ni dans la session sur la plateforme, donc il faudra se contenter de la sensation si on utilise un environnement 100% Suunto. Et puis si je me trompe pas, chez Polar, on a facilement accès aussi à cette sensation, mais c'est un peu plus compliqué de noter un RPE. Polar, eux, ils fournissent plein de métriques qui sont calculées automatiquement par rapport aux données de l'entraînement, mais pas forcément de RPE. C'est vrai que dans la plateforme Polar Flow, a priori, il faut passer par la zone de notes libres dans la séance d'entraînement pour enregistrer son RPE.
Les notes libres qui sont présentes aussi, alors j'utilise pas TrainingPeaks, donc je peux pas dire, mais dans Nolio, quand on débriefe la séance, après donc ces deux métriques, qui sont déclaratives, hein, qui sont vraiment de la perception, eh bien, il y a aussi une zone commentaire où on peut laisser un commentaire, que ce soit sur le détail de la séance ou peut-être en dire un peu plus sur la perception. Et là, je pense que ça se rapproche de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur une séance d'intervalle où on va avoir trois différentes zones de perception, voire plus si on veut débriefer à chaque intervalle, on va pouvoir le faire dans la zone de commentaire libre. Par contre, pour avoir une vue sur du long terme, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir rentrer à chaque fois dans la séance pour avoir le commentaire.
Mmh. Alors, pour préciser, hein, Polar, je parlais vraiment de la partie web, parce que dans l'application mobile, on a cette notion de RPE qui apparaît dès qu'on ouvre une nouvelle session, hein, comme c'est le cas pour TrainingPeaks, par exemple. Dès que j'ai enregistré une nouvelle activité dans mon Polar Flow, si je vais depuis l'application mobile, eh ben, on me demande le RPE et puis ensuite la sensation. Donc là, j'ai les deux données, mais j'ai pas trouvé comment l'éditer sur la plateforme web uniquement. Donc, on préférera ouvrir depuis l'application mobile si on veut faire son suivi RPE avec Polar.
Bon, et puis, Greg, dans tout ça, il me semble qu'on a oublié une plateforme qui est plus un réseau social, mais qui, malgré tout, joue ce rôle d'agrégation des différentes données que l'on peut collecter avec nos différentes montres, où on va avoir peut-être aussi cette zone pour mettre un RPE ou un assimilé.
C'est une application Orange dont tu parles?
Oui, effectivement, Orange et blanche.
Ouais. Alors effectivement, Strava, j'ai pas regardé et je n'utilise pas Strava pour ce genre de choses, donc c'est vrai que je suis un petit peu passé à côté, mais là je suis dans une activité Strava effectivement, donc déjà j'ai le ressenti, donc le RPE qui m'est demandé pendant l'effort, mais
c'est tout ce que t'as en fait, tu as que le RPE, tu as pas la sensation, et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas au fait de ce type de données, ça peut porter confusion. À n'avoir que celui-là, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la perception de l'effort fourni? Est-ce que c'est le ressenti? Alors Strava, je crois que entre-temps, ils ont quand même poussé, ils ont même rajouté une pop-up, un petit encadré, où ils t'expliquent ce que c'est que Perceived Exertion, parce que moi, je l'ai en anglais. Donc, en français, je pense que c'est pareil, ils doivent t'expliquer un petit peu à quoi correspond la notation qu'on te propose. Et là, c'est une échelle à 10 paliers.
L'échelle simplifiée, hein, c'est celle vraiment qu'on retrouve sur quasiment toutes les plateformes. Je crois que il y a plus que dans les laboratoires où on utilise parfois encore l'échelle de Borg originale, mais la plupart des plateformes d'entraînement utilisent l'échelle simplifiée parce que c'est quand même plus simple. Et puis l'esprit humain est quand même des fois plus habitué à noter, soit en pourcentage, hein, c'est facile. Si j'ai l'impression d'avoir fait ma session à 80%, bah ce sera 8 et puis c'est facile. Si je te dis t'as fait ta session à 80%, tu me la notes sur une échelle qui va de 8 à 20, c'est un tout petit peu plus compliqué, il y a un effort à faire au niveau du calcul. Et puis du coup se retrouver avec la même échelle sur toutes les plateformes, déjà ça c'est quand même assez pratique.
D'où vient cette notation de 6 à 20 ou de 8 à 20 sur l'échelle de Borg? Pourquoi est-ce qu'elle commence pas à 0?
Alors écoute, c'est une excellente question, faudrait la poser à Borg parce que j'ignore pourquoi qu'il l'a commencé comme ça. Ouais, elle va de 6 à 20, là je l'ai sous les yeux sur la page Wikipédia qui concerne cette échelle. Et puis 6, c'est vraiment aucun effort, aucune fatigue. Et puis 20, c'est le maximum que tu peux aller. Ouais, la raison fondamentale pour laquelle on commence à 6 et pas à 0, je saurais pas te la donner. Peut-être qu'il y a une raison physiologique là-dessus, c'est-à-dire qu'à 6, quand on a l'impression de faire aucun effort, on a quand même un certain métabolisme qui tourne et qui consomme de l'énergie, même si on a l'impression de fournir aucun effort. Si c'est vraiment quelqu'un de très scientifique, très médical, il a peut-être fait une échelle qui va de 1 à 20, mais 1, c'est que t'es en hibernation, et puis 5, c'est que t'es en sous-activité, 6 c'est que t'es assis sur une chaise et puis que t'as un métabolisme qui tourne, et puis 20 c'est quand t'es en train de courir à bloc, en train d'essayer d'aller plus vite que Mo Farah sur un 5000 mètres.
C'est un peu l'impression que j'en avais, enfin l'explication que j'aurais pu imaginer.
Mais voilà, c'est une hypothèse personnelle, j'ai pas les tenants et aboutissants de cette histoire derrière cette notation de 6 à 20.
Alors pour revenir un petit peu sur la plateforme, on en a brièvement parlé. Est-ce que tu as quelques outils, quelques solutions, quelques conseils à donner pour passer en revue ces deux échelles que sont le RPE et la sensation à l'effort? Comment est-ce qu'on peut avoir une vue sur une période donnée et comparer justement l'évolution de nos sensations et de nos perceptions de l'effort fourni?
Alors bon, de nouveau, hein, moi je vais parler beaucoup de Training Peaks parce que c'est la plateforme dans laquelle je centralise vraiment tous mes entraînements et avec laquelle je réalise mon suivi d'entraînement personnel, donc c'est celle que j'utilise le plus. Et là, bah, si je prends ma semaine que j'ai sous les yeux, eh bien j'ai mes petites cases avec mes entraînements, et puis j'ai mon petit smiley qui s'affiche sous chacune des cases, donc ça me permet en une semaine de voir un petit peu les différents smileys qu'il y a sous les parties d'entraînement. Et puis bah, je vois que la plupart, il y a un grand sourire, il y en a une, le sourire il est un petit peu mitigé, et donc je me dis c'est une séance où j'avais une semaine où j'avais une bonne motivation à aller faire mes séances, et il n'y a pas de problème particulier sur cette semaine là. Et puis au niveau du RPE par contre, j'ai pas de retour visuel directement sur ma vue de la semaine, mais je sais quand j'ai une séance, par exemple ici j'ai un 15 km endurance de base, je vais cliquer dessus et puis normalement je dois trouver un effort qui est modéré. Si je prends ces différentes activités d'endurance que j'ai réalisées au cours des dernières semaines, si je vois que ça va plus haut que du 5, je vais me poser la question de savoir est-ce que j'ai pas de la fatigue qui commence à s'installer ou un problème au niveau de la planification de mes entraînements.
Ouais, parce que tu vois, je regardais par exemple sur Nolio que moi j'utilise avec l'offre gratuite, c'est-à-dire uniquement pour remonter mes informations depuis ma montre en automatique et puis débriefer justement dedans, parce que j'aime bien cette petite fonction de débrief juste après avoir fini la séance. Il faut rentrer dans chacune des séances pour avoir le ressenti et le RPE. Donc je pense que si on veut avoir une vue comparative sur une période donnée pour justement voir l'évolution de la perception et revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure en début d'épisode, c'est-à-dire que ça peut être une bonne indication pour savoir où on en est dans notre entraînement, ça s'avère un peu plus compliqué. Donc en conclusion, on va peut-être tous migrer sur Training Peaks.
Ou alors proposer aux éditeurs de Nolio d'améliorer cette, cet affichage.
C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait peut-être leur suggérer cela.
Maintenant, ce qui est plus important, c'est vraiment de prendre l'habitude de le faire, parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore vraiment parlé dans cet épisode, mais c'est que ça demande une certaine pratique. C'est vrai que les premières fois qu'on va aller faire des séances, c'est un petit peu difficile de noter ça précisément, qu'est-ce qu'on a ressenti. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a différents paramètres, et puis comparer une séance à une autre, une qui a eu lieu il y a 3 jours, celle d'aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile. Donc, même si on a l'impression qu'on ne sait pas trop quoi mettre là-dedans, il faut commencer à entrer des données. Au début, ce sera pas forcément facile, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on commence à rentrer des données qui nous paraissent plus cohérentes et puis qui nous permettent vraiment de comparer les différentes séances. Donc, moi, j'invite vraiment les auditeurs qui sont intéressés à faire un suivi relativement bien documenté de leur entraînement, bien de rajouter le RPE si c'est pas déjà le cas à leurs entraînements, parce que ça donne une information qui va s'affiner au cours des semaines et des mois d'entraînement et puis qui va devenir importante à analyser ensuite.
Ouais, mais clairement, comme tu l'as dit et comme on en parlait en off, moi je dirais que je suis plutôt binaire et pour moi une échelle à 3 paliers suffirait largement, que ce soit pour le ressenti ou pour la sensation, parce que finalement bah tu vas te dire ok, est-ce que c'était une bonne séance, est-ce que c'était une mauvaise séance ou c'était une séance entre les deux, et en termes de, que ce soit en termes de sensation, c'est-à-dire en termes de motivation, j'étais motivé, j'étais pas motivé, ou alors bon voilà, fallait que j'y aille quoi, donc j'y suis allé. Mettre 5 paliers, ouais, faut déjà réussir à trouver la différence entre un palier intermédiaire et un autre. Et pareil pour la perception de l'effort, j'ai envie de te dire, oui, les gens qui ont déjà une certaine expérience dans l'entraînement, qui connaissent parfaitement leur corps et leur ressenti, leur sensation d'effort fourni, pourraient s'amuser sur une échelle de 1 à 10. Moi, clairement, ce que je remarque, c'est que en général, je suis à 0 parce que, enfin, ou à 1 parce que bah, c'était une séance super facile. Je suis à 10 parce que c'était du fractionné et puis j'ai bien tapé dedans. Et puis je suis à 5 quand c'était du léger vallonné et j'arrivais à récupérer ou des moments, je tapais un peu dedans, tu vois. Mais sentir la nuance entre 2, 4, 6, 9, tu vois, je trouve que c'est, même avec de la pratique, c'est quand même très subjectif.
Alors, avec la pratique, ça vient, mais il n'y a pas la police qui va venir vérifier dans tes séances d'entraînement comment t'as noté ton RPE ou ton ressenti, Hermano. Donc, si tu trouves que l'échelle de 1 à 10, elle te convient pas parce que t'as pas assez de nuances, tu peux tout à fait décider de noter tes séances 3, 6 ou 9. Et puis, ça te donnera une première notation. Tu prends l'habitude de le faire. Et puis, peut-être qu'avec la pratique, tu vas commencer à utiliser les petites nuances. Peut-être pas 9, mais 10 ou pas 9, mais 8, etc. Et puis, au fur et à mesure, tu vas commencer à noter ton RPE sur une échelle de 10. Pareil pour les petits smileys, si t'en as 5, que t'en as un qui est très heureux, un qui est un petit peu heureux, un qui est neutre, un qui est un peu malheureux, puis l'autre très malheureux, puis que toi t'arrives pas à faire la nuance au début, hein, utilise le 3, les deux des extrémités puis celui du milieu, et puis ensuite peut-être que t'arriveras à trouver des nuances entre les deux. Donc voilà, moi j'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à le faire mais qui trouvent que c'est trop difficile de noter entre 0 et 10, et ben de noter 3, 6 ou 9. Et puis ensuite, avec les semaines, et puis peut-être trouver des petites variations subtiles au fur et à mesure de leurs entraînements, de commencer à utiliser les autres notes. Et puis pareil pour le ressenti.
Bon, bah écoute, je note les bons conseils, coach Greg, et puis je te ferai un retour justement sur la notation de mon RPE dans les prochaines semaines.
Très bien, on fera un épisode de suivi en saison 4, et là tu pourras nous indiquer que tu regrettes qu'il n'y ait pas les virgules, et puis que finalement cette échelle de 1 à 10, elle devrait être une échelle de 1 à 50 parce que t'as besoin de plus de nuances.
Autant j'imagine que ça peut être difficile d'avoir quelqu'un de chez Training Peaks ou de chez Strava qui va venir nous expliquer tout ça. Par contre, pourquoi pas essayer d'aller inviter les fondateurs de Nolio pour nous expliquer un petit peu quelle est leur vision à eux de ce RPE, de cette sensation, quelle est leur vision à eux de l'utilisation de ces données qui sont beaucoup plus subjectives que quantitatives ou que qualitatives. Et puis, quels sont leurs plans? On en parlait tout à l'heure, on se disait peut-être qu'on peut leur suggérer d'avoir une vue justement sur ces deux données-là, une échelle de temps qui serait à définir, ou peut-être même qui serait paramétrable. Donc, qu'est-ce que tu penserais dans les futurs épisodes d'inviter une des personnes de chez Nolio ?
Bah écoute, c'est franchement pas une mauvaise idée, et je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de personnes qui s'occupent de ce type de plateforme, parce que bah, c'est leur principal corps de métier, de prendre ces données, de les interpréter et de les rendre aux sportifs, à l'athlète, de la manière la plus constructive possible pour la suite de l'entraînement, et puis le regard un petit peu plus haut niveau qu'au niveau de la séance simple. Hein. On sait que les applications comme Garmin Connect, Polar Flow et puis Suunto et autres, c'est un petit peu le reproche qu'on fait régulièrement. C'est-à-dire que c'est très bien pour analyser une séance une fois qu'on est rentré à la maison puis de voir ce qui s'est passé. Par contre, prendre un petit peu de recul puis dire dans les deux derniers mois qu'est-ce qui s'est passé, c'est des fois un petit peu plus compliqué. C'est vrai que la manière de faire des rapports sur des longues périodes est souvent limitée dans ces plateformes. Donc c'est pour ça qu'on se dirige vers TrainingPeaks, Nolio ou des solutions équivalentes. Et donc, voilà, pour pouvoir discuter de quelles données sont intéressantes et puis comment les analyser sur une période de temps de un mois ou d'un cycle d'entraînement, ça peut être intéressant. Et puis, je te cache pas que j'ai déjà eu quelques échanges par mail avec les créateurs de Nolio, parce que je suis en train aussi de tester cette plateforme pour en faire un petit retour sur nakan.ch. Donc, je pense que ce sera pas très, très compliqué de les avoir dans un podcast à l'avenir.
Bon, déjà, on leur enverra l'épisode d'aujourd'hui. Et puis, l'invitation, messieurs, mesdames, est lancé, donc quand vous voulez, on se passe un coup de fil et vous venez nous rendre visite.
Bah oui, volontiers, parce que nous on cherche toujours des nouveaux intervenants pour les épisodes du podcast. Nous on a aussi des fois des idées de thématiques, mais quand elles sont proposées par d'autres, ou qu'il y en a qui des auditeurs hein, qui nous proposent des thématiques, ou alors des personnes qui disaient moi je pense que ce serait intéressant de parler de ça, bah, on les invite volontiers pour parler de sujets nouveaux, et puis pas forcément de trucs qu'on connaît super bien, mais qui nous permettent d'apprendre. Petit teasing pour le prochain épisode, on va utiliser un langage que j'ai jamais utilisé de ma vie pour décrire des trucs que j'utilise tous les jours à l'entraînement, à savoir mes muscles. Mais, enfin voilà.
Tu utilises tes muscles, toi ? Bah, justement, ce serait intéressant d'avoir ton RPE sur le prochain épisode, parce que très clairement, moi, je pense que j'aurai un RPE qui va fumer. Hein.
Ouais, au niveau de l'analyse scientifique de comment fonctionne un muscle, on se doute pas de ce qui se passe dans nos fibres pendant qu'on est en train de courir.
Bah écoute, Greg, je te remercie encore pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs vont apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez pas, chers amis, à laisser un petit commentaire, que ce soit sur le site, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Apple Podcast, parce que c'est la plateforme qui nous permet quand même de remonter dans les classements, d'être visible. Et puis, si vous avez, comme l'a dit Greg, des questions, des suggestions sur des thèmes à aborder ou sur des épisodes en particulier, n'hésitez pas là aussi à prendre contact. Vous connaissez l'adresse, et puis sur le site on vous explique tout, podcast.nakan.ch, on vous explique comment nous contacter. D'ici là, je crois qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.
Exact, on se retrouve dans 15 jours pour parler de muscles.
Salut, et bien écoute, prends soin de tes muscles et à dans 15 jours.
À dans 15 jours, merci Hermano. We'll be right back.